Radio Zinzine présente Notre-Dame des Glandes, la lutte contre l'aéroport de Nantes, acte 3. Voilà, autour de la table, nous avons Alain, Antoine, Sri et Louz.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Pour une fois, je joue à domicile. Je suis pas parti dans des contrées lointaines et exotiques à la conquête de l'Ouest, comme on dit. Vous êtes venu parce que il y a un petit tournée d'informations dont on parlera que vous êtes en train de réaliser sur sur un peu toute la France, et c'est l'occasion de faire un peu le point sur la lutte contre ce nouvel aéroport, ce projet de nouvel aéroport, de deuxième aéroport à Nantes sur la commune, même si ça touche d'autres communes aussi, mais principalement Notre-Dame-des-Landes. On a déjà réalisé deux émissions sur le sujet. On peut peut-être rappeler deux, trois petites choses au niveau historique. Sinon les gens ils sont obligés de rester branchés sur Radio Zinzine et de réviser leurs notes. Mais bon, en gros, le projet est sorti dans les années 60, ça fait 60-70, ça fait plus de 40 ans qu'il y a ce projet-là qui apparaît, redisparaît, réapparaît, se planque dans certains tiroirs. Et puis, dans les années 2000, le projet est ressorti. Il y a toujours eu une opposition qui au départ était peut-être principalement avec les gens sur le lieu, sur la zone, avec aussi le côté des paysans ou exploitants agricoles forcément, si on bétonne pour faire pousser des poireaux, c'est pas gagné. Peuvent être mis en danger, mais pour sans refaire tout l'historique, en gros, il y a eu une structuration de la lutte avec différents acteurs, des acteurs plus associatifs, traditionnels. On parle de deux coordinations, la CIPA, l'association des citoyens opposé au projet d'aéroport. Il y a l'ADECA, l'association des exploitants agricoles concernés par l'aéroport, et puis un groupe qui s'appelle les habitants qui résistent, qui sont sur la zone elle-même, ce qu'on appelle la ZAD, la zone d'aménagement différé, je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tous les cas, qui est cette zone d'environ 2000 hectares sur lequel tout va être bétonné pour faire à la fois les pistes, les aérogares, mais aussi les centres commerciaux, les bretelles d'accès et tout un tas de choses. 2009, c'était le camp Action Climat qui avait lieu là-bas, duquel est sorti un appel à occupation. Et bon, la dernière émission réalisée en septembre 2010 était avec le côté où il y avait 13 lieux qui étaient occupés sur la ZAD. Les gens qui venaient vivre sur le lieu pour faire vivre toute cette zone et s'opposer concrètement à la construction de cet aéroport. Donc voilà un peu pour aller vite dans cette historique. Le début, c'est peut-être de raconter comment vous êtes arrivé jusqu'ici et votre projet d'info-tour, qu'est-ce que c'est ?
Antoine. Du coup, ce projet d'info-tour, en fait, il a eu lieu la première fois où il a été décidé. C'était dans le cadre des AG qui ont été organisés sur la ZAD. Suite, c'était donc l'été dernier, il y a eu des huissiers qui sont passés pour apporter les commandements de quitter les lieux, et du coup là il y a eu une dynamique d'AG qui sont mis en place, où il y a eu tout un tas d'idées qui ont été débattues, tout ça, comment s'organiser. Et du coup il y a eu une idée là de faire un infotour en France notamment, Du coup, on s'est scindé en deux équipes. Une équipe qui est partie dans le nord et dans l'est, et une autre qui a fait l'ouest et puis le sud. Du coup, jusqu'ici, on a fait, je dirais, 8-9 dates. Et voilà, il y en avait donc une ici hier soir à Fort Calquier.
Qui a suscité un élan populaire assez énorme.
Ah ouais, on a fait salle complète. Non, il n'y avait pas grand monde, effectivement.
Le but de l'infotour, en dehors de faire de l'information sur la situation.
Il y a, selon les endroits où on passait, les gens se sentaient plus impliqués, par exemple, pour venir sur le site. Du coup, il y a un appel à occupation qui existe, puisqu'il y a encore des terrains vides, des bâtiments vides. Également, de croiser les luttes locales, puisque c'est des choses qu'en fait, un peu partout où on est passé, les personnes étaient opposées aussi à des projets de grande envergure, que ce soit des LGV, que ce soit ITER.
Les lignes à grande vitesse.
Les lignes à grande vitesse, oui. Ou ITER, par exemple, dans la région, ou ce genre de choses, ou des remembrements divers et variés.
Des projets de, il y avait le projet de parc naturel régional en Ariège aussi, qu'on a croisé. Il y avait beaucoup de luttes liées au territoire, un peu partout.
Dans les villes, beaucoup de gentrification, ils refont des quartiers entiers. Plutôt, ça s'organise autour de ça.
La gentrification, c'est dans le coin, on parle plus de l'ubéronisation. Ça parle peut-être plus aux gens. C'est remettre un peu de couleur sur les façades et augmenter les loyers pour virer les couches populaires. Et aménager tout ça pour une classe à relativement haut revenu. Ce qui, c'est la gentrification, c'est peut-être le bon moyen de faire la transition pour parler de l'ambiance plus générale et du coup de voir ce projet d'aéroport, de rappeler un peu plus précisément ce projet d'aéroport, dans quoi il s'ancre au niveau du projet du développement de la métropole nantaise.
Ouais, alors ça a déjà été un peu discuté à cette antenne, alors ça fait un truc où Nantes en ce moment essaye de créer un boom de développement économique. Pour ça, ça fait un truc où il y a une volonté d'agrandir la métropole nantaise, hein, qui est pour l'instant une métropole de 600 000 habitants, et la volonté c'est de raccorder tous les bourgs entre Nantes et Saint-Nazaire à la métropole, avec Saint-Nazaire compris, ce qui fait une métropole de 850 000 habitants, et du coup un territoire environ de 100 km de long sur 50 de large, le tout au bord de la Loire. C'est tout l'estuaire de la Loire qui va devenir une seule et grande métropole. Alors ça, ils sont en train d'essayer de le faire juridiquement, et bon, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps. Et au milieu de tout ça, pour créer une grande plateforme économique dans l'Ouest, ce qui n'existe pas trop pour l'instant, eh ben, il y a la volonté d'agrandir le port de Saint-Nazaire, agrandir les autoroutes au milieu, créer un nouveau périphérique autour de Nantes à 30 km, du coup, créer ce nouvel aéroport, créer des espèces de RER, qui ne seraient pas des RER parce qu'on n'est pas à Paris, mais ce qu'ils appellent des tram-trains. Et voilà, du coup, il y a vraiment toute une logique de développement du transport et de permettre un meilleur fonctionnement des flux, une meilleure fluidité des flux. Et du coup, on se retrouve avec une ville où il y a vraiment de multiples moyens de transport. On se retrouve avec, il y a le tram qui est assez historique à Nantes. Il y a des bus à gogo, ils veulent faire des bus de ce qu'ils appellent des chronobus, où le bus est sur des lignes prioritaires, où du coup, les feux passent au rouge quand le bus arrive, et du coup, il peut aller vite. On a des bateaux qui se promènent sur les différentes rivières, la Loire et l'Erdre, pour transporter des gens. Et ils ont le tout dernier projet en date, c'est de faire un téléphérique.
Oui, qui est la dernière mode, parce qu'ils ont fait la même chose à New York.
Et voilà. Du coup, un téléphérique pour traverser la Loire. Alors, c'est un peu le petit rappel historique avec un pont transborder qui a été détruit. Il y a quand même pas mal de temps maintenant, je ne saurais pas dire la date, mais et du coup ça fait un truc de hop, un peu rappel, de tenter des rappels historiques et des mémoires de la ville. Et du coup, la ville, elle est en grand nettoyage avec, comme grande base l'écologie comme nouveau mode de développement et comme nouveau mode d'habiter. Du coup, il y a des éco-quartiers qui existent, qui se construisent un peu partout. C'est à grand coup de 35 hectares qui sont pris, 25-35 hectares qui sont repris dans la ville. Que ce soit sur des plaines maraîchères, des anciens sites industriels ou des anciens quartiers populaires, hein, qui sont complètement rasés pour reconstruire des grands bâtiments avec une volonté de mixité sociale soi-disant, du coup dans lesquels ils mettent automatiquement 20% de HLM dans un coin caché. Et le reste, c'est des gros bâtiments qui sont souvent assez laids et qui ont des gros, actuellement en tout cas tout ce qui a été construit, des gros problèmes de solidité avec des bâtiments qui se fendent dans tous les sens, qui ont les pieds dans l'eau, parce qu'il y a des nappes phréatiques un peu partout et qui tiennent pas la route, quoi. Et du coup, toute la ville, là, elle était depuis quelques années sur ce truc d'écologie. Et là, grande nouvelle, en novembre ou en octobre, Nantes a été choisie comme capitale européenne de l'environnement, de l'écologie, pour l'année 2013. Du coup, ça donne un truc où il y a une accélération du nettoyage de la ville. À la mairie, ils viennent de décider, ou peut-être ils l'ont pas encore totalement décidé, mais ils sont en phase de discussion de ce truc de faire des services minimums pour les éboueurs en cas de grève, parce qu'il faut pas qu'il y ait des poubelles qui traînent dans la ville. Et ça crée un truc de nettoyage et de blanchiment de la ville. Et avec ça, une tentative d'attirer énormément de populations plutôt riches, au vu du prix des appartements qui sont à vendre. Les appartements de 60 mètres carrés qui sont des logements dits abordables sont à 175 000 euros. Du coup, c'est pas n'importe qui va venir s'installer là, et ça crée en 10 ans aussi un nettoyage de la population et un blanchiment de la population. Du coup, voilà, les murs en tuf qui étaient déjà blancs, la population qui est blanche, ça fait une ville qui devient vraiment très blanche. Et au milieu de tout ça, quelques tentatives de soi-disant assumer le passé ou des choses comme ça, et de créer des immenses... Alors là, c'est un mémorial à l'abolition de l'esclavage, hein, qui se fait en face de notre tribunal, qui est assez impressionnant, qui est tout noir, et on sait qui est jugé dans ce genre de tribunal, et qui est envoyé en taule.
Ou là, c'est nettement moins blanc.
Là, c'est nettement moins blanc tout de suite. C'est la couleur du tribunal. Et du coup, voilà, ça fait un ensemble assez bizarre. Et puis un grand truc de... Nantes, la ville où il fait bon vivre en France, une des villes où il fait le mieux vivre en France, avec son air pur et brassé par l'océan. Et du coup, tout un truc de tenter d'attirer du touriste, de faire fonctionner les machines du Royal de Luxe, qui sont des énormes marionnettes... pour promener des touristes dans la ville.
Royal de Luxe, qui est une compagnie qui vient, en fait, une compagnie artistique qui vient du théâtre de rue et qui a fait beaucoup parler d'elle de par le gigantisme, justement, de ces machines, où il y avait une inventivité pas inintéressante dans ce qu'ils faisaient, mais avec ce côté où, en fait, ils se retrouvent quelque part récupérés et intégrés dans la dynamique de nantaise d'écologie culturelle.
Voilà. Du coup, ça fait un truc pour promener les touristes un peu partout. Il y a, je sais pas, en fait, je saurais pas comment te décrire à la radio. Ça fait un truc assez compliqué là de donner une image, mais ça fait un truc où toutes les rues sont agrandies et tout est parcellarisé. Il se passe ces mono-activités dans chaque espace de la ville, où il y a une tentative de créer du mono-activité dans chaque espace de la ville. Je pense qu'on avait déjà causé dans une autre émission du complexe de 13 bars avec 13 ambiances tout au bout de l'île Beaulieu. Et voilà. Et du coup, là, il y a aussi tout un gros truc de développement économique, avec des tentatives de faire venir des entreprises sur les biotechnologies. Il y a plusieurs laboratoires ADN, dont le laboratoire qui est le plus performant pour la police d'études des relevés ADN, où ils se vantent de pouvoir trouver couleur de la peau, sexe de la personne et tout ça juste avec des prises d'ADN. On a des entreprises qui fabriquent des drones et voilà, et ça fait un truc où un peu partout là il y a des nouvelles entreprises qui s'installent et un truc de d'une volonté de développement de tout ça, et de bétonner ces 100 km avec en laissant au milieu des petites zones de forêt et des zones protégées naturelles. Et en même temps, de planter dès maintenant des forêts urbaines et de faire ça par les enfants des écoles, clairement dans un projet de créer des éco-citoyens dans l'éco-cité avec ses écomaires. Et de garder des petites zones de territoire réservées à l'agriculture et des zones juste d'habitation et de cités dortoirs. Ça fait un truc où tous les bourgs sont pareils, sont en construction et en chantier parce qu'ils veulent construire des écoquartiers dans plein de bourgs, pareil à coût de 35 hectares, où là les terres sont directement reprises aux agriculteurs et passent de la zone agricole en zone constructible. Et voilà, ça fait vraiment un truc de développement un peu partout assez fort. Et sur les estimations dans 30 ans, là, c'est assez démentiel de voir les cartes et de voir comment le territoire il est repris un peu partout. Et cette volonté de développer les transports dans tous les sens pour que les gens puissent aller dans les zones naturelles réservées en transport en commun, qu'ils puissent rentrer chez eux dormir et en même temps travailler sur Nantes ou autour.
Sur les éco-citoyens, tu peux peut-être raconter cette petite anecdote de tri des déchets que dans certains bourgs autour de Nantes.
Alors ça, c'est un tout nouveau système qui vient d'être trouvé. C'est une implantation d'une puce RFID dans le capot de chaque poubelle.
Donc RFID à radiofréquence électromagnétique qui envoie des signaux qui peuvent être lus à plus ou moins grande distance.
Alors, officiellement 1m50, officieusement d'après les informaticiens qui jouent avec jusqu'à 20 mètres. Pour les puces qui sont dans les passeports, en tout cas 20 mètres, 50 mètres sans problème. Et en tout cas, ils mettent ces puces dans les capots des poubelles. Et juste dans les poubelles, je trie pas, là, vous voyez les poubelles tout venant. Et quand ils ramassent les poubelles, du coup, les poubelles sont pesées individuellement et l'impôt sur les poubelles est directement est calculé suivant le nombre de déchets qui a pas été trié. Et sur cette base-là. Et du coup c'est Veolia là qui tient le marché de ramassage des poubelles et ça fait un truc où ils se retrouvent avec énormément de matières premières triées qui est du coup de la matière directement utilisable et un truc où c'est obliger les gens en fait à trier les déchets et du coup à générer du profit pour Veolia. Faut savoir que une tonne de bouteilles en plastique, ça coûte environ 200 euros, ce qui est du coup vite super rentable pour une boîte comme ça, qui touche aussi de l'argent de la métropole et des fonds publics pour ramasser les déchets. Et du coup...
Oui, la question que je me pose par rapport à ça, et je pense que toi tu dois pas avoir la réponse non plus, mais je me demande si c'est un système qui concerne que les particuliers, ou si les entreprises aussi, les supermarchés, doivent payer cette taxe et doivent faire le travail de tri des déchets, je suis pas du tout sûr que les entreprises doivent le faire aussi.
Bah non, elles vendent des déchets, les supermarchés, donc ils vont pas.
Après, il faut savoir aussi que par exemple, Veolia, ils viennent de faire mainmise sur toutes les palettes de Nantes. Un truc d'avoir lancé, ils rachètent les palettes aux entreprises en fait, pour en faire du copeau de bois écologique à utiliser dans les poêles là. Après destruction du bois en tout petits morceaux et recompactage en granulés. Et du coup, toutes les entreprises maintenant revendent leurs palettes à Veolia et du coup, il n'y a plus moyen de faire de la récup de palettes facilement. Ils ont mis des containers fermés.
Ce qui est dommage pour les mouvements sociaux parce que c'est quand même un combustible pour se réchauffer assez important.
Et du coup, dans toutes les déchetteries, ils ont mis des containers pour récupérer aussi tout ce qui est les déchets électroniques, électroportatifs, donc tout ce qui est aspirateur, télé, ordinateur, tout ce qui contient de l'électronique. Parce que c'est de l'ultra valorisable. Et du coup, ils récupèrent juste cette partie-là des déchets. Quoi. Tout le reste, le tout venant, l'amiante et tout ça, là, ils n'en veulent pas. Ça a la mérite de se démerder avec. Par contre, tout ce qui est ultra valorisable, ils font mainmise dessus. Quoi. Ce qui fait que, par exemple, les Roms qui vivent pas mal de la récupération du cuivre se retrouvent assez bloqués à ne plus pouvoir accéder à ça. Quoi.
Mmh. On va faire une petite pause musicale qui n'a strictement rien à voir avec le sujet.
Ça peut dérailler et par accident un tunnel peut s'effondrer par accident un avion ça peut tomber par accident. idéale. C'est la sécurité optimale. C'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te répéter. À la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit. Un câble, ça peut casser. La technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit. Un tunnel peut s'effondrer, une piste s'écrouler, un ingénieur mal calculé. Un pétrolier peut s'échouer, une plateforme polluée. Et goudronner un océan. Le Titanic a coulé, le Tupolev est tombé. Et le Zeppelin a brûlé. Oui, mais les centrales, c'est la technologie idéale. C'est la sécurité optimale. C'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit.
Voilà, on reprend toujours avec Antoine, Alain, Sri et Luz pour parler de l'opposition à ce nouvel aéroport du côté de Nantes. On peut peut-être revenir sur la ZAD en tant que telle, donc la zone d'aménagement différé ou la zone à défendre ou la zone à détruire, ça dépend de quel côté de la barricade on se place. Et donc en septembre, quand j'étais passé la dernière fois, il y avait 13 lieux occupés. De différentes manières, il y avait, je sais pas, une yourte par-ci, une cabane construite par-là, une caravane posée sur des terrains, et toujours cet appel à occupation, à venir rejoindre les gens sur place qui a été lancé depuis le camp Action Climat en 2009. Par rapport à ça, on en est où quelques mois après?
Là, en fait, il y a 16 lieux qui sont occupés maintenant. Du coup, il y a une bibliothèque, librairie dans un camion qui est arrivé. Il y a un boulanger qui est arrivé, là, qui est en train de terminer de s'installer. Il y a une cantine vegan également qui vient d'arriver. Enfin, il y a divers projets comme ça qui sont en train de se mettre en place. Autrement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même eu un gros speed au mois de juillet, en fait, où l'huissier est passé dans 5 lieux, là, comme on vous a dit. Et du coup, de ce fait, et aussi du fait de savoir que c'était Vinci qui avait récupéré le bébé, quoi, on peut dire, il y a eu des AG populaires, en fait, qui se sont montés et qui continuent toujours de manière plus ou moins balbutiante, quoi, dans l'idée de s'unir avec le plus grand nombre. Et de réfléchir ensemble, en fait, à comment lutter contre l'aéroport et sur des choses plus précises, c'est-à-dire comment défendre ses occupations, quoi. Donc ces AG populaires, c'est soit des individus qui viennent, ou alors c'est des gens des associations telles que la DECA, la CIPA, la coordination, les habitants qui résistent. Il y a également les comités locaux et puis les squatteurs, squatteuses aussi.
Peut-être expliquer un peu plus ce que c'est ces comités locaux qui se sont mis en place.
Alors ça, c'est né de la première AG, c'est un projet où les gens disent à un moment, nous on vient des fois de loin, il y a des gens qui venaient de Vannes, qui doit faire une centaine de kilomètres, il y a des gens qui venaient d'Angers, ça fait 150 kilomètres, des gens de Nantes, une trentaine de kilomètres, de Sud-Loire, et du coup les gens disent, nous on pourra pas venir à chaque AG, là, tous les 15 jours, et du coup on va s'organiser en petits groupes, de notre côté, tenter d'envoyer des délégués régulièrement aux AG et assez sur des bases d'auto-organisation. Du coup, il n'y a pas de... Je sais pas, comme un espèce de schéma directeur de quel comité local ferait quoi ou comment ça s'organise.
Vous n'avez pas de comité central.
Il y a l'AG où ça se coordonne un peu, mais chaque groupe un peu s'autodétermine. Et du coup, là-dedans, il y a des groupes qui sont assez sur des formes plutôt activistes. Il y a des groupes qui travaillent énormément sur l'écriture. Le groupe de Nantes, il a la volonté de travailler sur un journal à parution régulière mais lente. Et qui travaille plus sur la métropolisation et un petit peu sur l'aéroport. Et des gens qui travaillent sur un livre un peu plus conséquent et avec de prendre plus le temps de développer... nos idées, nos réflexions. Et du coup, il y a des groupes qui sont créés un peu partout, qui fonctionnent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins gros, dans un cercle de 100-150 km tout autour de l'aéroport.
Vous avez une idée de combien de personnes ça mobilise, ces comités locaux ?
Nantes, ça fait entre 15 et 25 personnes. Je crois que le groupe d'Angers, il est assez gros. Alors, je ne saurais pas dire. C'est sûr, il y a une vingtaine de personnes, mais après, je ne saurais pas dire plus. Le groupe de Sud-Loire, du Pays de Ré, je pense pas énorme. Là, ça doit être 5-10 personnes. Il y a un groupe à Saint-Nazaire, je crois, qui est assez gros, assez dynamique. Après, je ne sais pas, je ne saurais pas donner un chiffre total de combien ça donne de personnes, quoi.
Et sur la ZAD elle-même, l'Assemblée Générale, quand elle se réunit, c'est avec plus les habitants de la ZAD, et ça représente aussi combien de...
Je pense qu'on l'avait déjà dit, mais la première Assemblée Générale, il y a eu à peu près 80 personnes. Et après, c'était la première, donc il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi par curiosité ou un peu pour venir découvrir ce que c'était. Et en fait, au fur et à mesure, le groupe il s'est un peu stabilisé et il y a maintenant, à venir régulièrement, il y a beaucoup moins de personnes que ça. C'est plus proche d'une vingtaine de personnes. Peu de gens de la ZAD, finalement. Il y a quelques personnes de la ZAD qui font le lien entre le groupe des gens qui occupent la ZAD et l'Assemblée Générale. Les associations sont pas souvent représentées, mais de temps en temps, il y a pareil quelques personnes qui viennent pour faire le lien entre les associations comme la CIPA, la DECA et l'Assemblée Générale. Et puis des personnes qui font le lien entre les comités locaux et puis l'Assemblée Générale. Donc oui, ça fait une vingtaine de personnes. Et après, les informations qui ont été données en Assemblée Générale, elles peuvent être transmises à plus de personnes que ça.
Mmh. Et du coup, j'étais passé au mois de septembre, tu disais que le conflit ne se voyait pas trop actuellement. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se passer peut-être dans les bureaux, des choses comme ça, mais que sur le terrain, c'était plutôt assez tranquille actuellement. On en est où maintenant par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a une avancée ? Est-ce que les tractopelles sont présents ? Le goudron arrive ou...
le goudron n'arrive pas encore, mais c'est vrai que la conflictualité, on la voit un peu plus... voire beaucoup plus à certains moments. Notamment, il y a eu une enquête publique par rapport à un remembrement. Et du coup, c'est un remembrement qui n'avait jamais été fait parce que, justement, il y avait ce projet d'aéroport qui bloquait un petit peu tous les projets d'aménagement sur cette zone-là. Et puis finalement, ils ont décidé de faire un remembrement parce que c'est plus pratique que de faire des expropriations. Parce que le remembrement, il ne concerne pas que l'aéroport, il concerne une zone beaucoup plus vaste, mais il comprend aussi la zone de l'aéroport avec une possibilité d'échanger des parcelles pour que le conseil régional récupère les parcelles dont il n'est pas encore propriétaire, notamment sur le barreau routier qui sera la desserte de l'aéroport.
Il faut prendre en compte que le remembrement a été demandé par les agriculteurs parce que c'est pas quelque chose qui était obligatoire pour construire cet aéroport. L'idée des agriculteurs là-dedans, c'est un remembrement, ça peut durer vraiment longtemps, on peut le faire durer vraiment longtemps, jusqu'à une dizaine d'années. Et du coup, ils ont demandé ce remembrement dans le but de faire traîner les choses le plus longtemps possible. Et du coup, ça donne lieu au départ à une enquête publique soi-disant consultation des gens qui y sont concernés. Et du coup, ça a eu lieu à Notre-Dame. Mais du coup, je vais te laisser raconter.
Donc, il y a le groupe des occupants de la ZAD. Nous, on savait pas trop exactement comment réagir parce qu'on avait peur aussi peut-être de se mettre dans une opposition très directe, trop directe, avec les agriculteurs qui souhaiteraient ce remembrement. Du coup, on en a discuté aussi avec les associations, notamment l'ADECA, qui est une association d'agriculteurs. Et c'est vrai que les agriculteurs, faut pas se le cacher, hein, ils sont favorables au fait qu'il y ait un remembrement. Mais quand même, là, le fait que ça concerne l'aéroport, ça faisait que l'ADECA, pas forcément tous les agriculteurs, mais au moins ceux qui sont à l'ADECA, souhaitaient aussi faire un petit quelque chose contre ce projet de remembrement, ou au moins visibiliser une contestation, faire un rassemblement devant la mairie où devait se tenir ce remembrement. Et donc du coup, on a lancé un truc comme ça. Donc l'enquête publique, c'était tous les jours pendant un mois, mais avec
à quel moment, au mois de novembre, ça?
Oui, du 10, quelque chose comme ça. Vous rappelez, vous? C'était 10 novembre, 10 décembre, un truc comme ça.
Ouais, ça durait 33 jours et ça devait se finir le 10 décembre. En fait, ça a été repoussé jusqu'au 16 parce que la première venue de l'enquêtrice a été bloquée, en fait. Et du coup, ils ont été obligés de reporter cette date parce qu'en fait, c'est comment dire, une présence qui est obligatoire et qui se fait tous les 6 jours, normalement.
Ouais, du coup, il y avait l'enquête publique qui se déroulait tous les jours, mais ça faisait 6 dates un peu plus spéciales où il y a les commissaires enquêteurs qui venaient pour répondre aux questions des gens qui habitaient là, mais surtout des propriétaires de parcelles concernées par ce projet de remembrement. Et du coup, il y a le mot d'ordre qui a été lancé de faire un rassemblement, non pas tous les jours, parce qu'on n'aurait pas forcément pu tenir le rythme, mais seulement les jours où il y avait les commissaires enquêteurs qui devaient venir. Et donc le premier jour, on devait être 80 personnes devant le... Donc le maire avait refusé de donner une salle dans la mairie, mais avait quand même laissé un bungalow qui est à l'extérieur de la mairie, qui est une annexe en fait de la mairie... Et du coup, on était rassemblés devant ce bungalow. Il n'y avait pas tant de gendarmes que ça encore. Il devait y avoir une trentaine ou une quarantaine de gendarmes. Du coup, nous, on était devant le bungalow. On empêchait les gens d'entrer. Apparemment, il y avait des serrures qui avaient été endommagées aussi. Donc, même si on n'avait pas été là, ça aurait peut-être été difficile de rentrer. Et donc, les commissaires enquêteurs sont restés un peu à se demander pendant une heure ou deux qu'est-ce qu'ils allaient faire, de téléphoner à la préfecture pour rendre compte de leurs difficultés. Et puis, au bout d'un moment, les gendarmes sont venus pour libérer le passage. Alors, très confiants, ils étaient venus à main nue, sans matraque, sans équipement, sans casque, sans rien. Pour venir, ils sont venus en ligne, quoi, toute une ligne qui est arrivée pour ouvrir un passage de force, pousser un petit peu les gens, et il se trouve qu'ils ont été repoussés dans l'autre sens sur 3 ou 4 mètres. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, hein, c'était surtout par des habitants vraiment du bourg, de Notre-Dame-des-Landes, plutôt que par des agitateurs venus de plus loin. Et ils sont restés observés à distance, et puis l'enquête publique n'a pas pu se faire ce jour-là. Les commissaires enquêteurs sont repartis après en dépanneuse parce que leur véhicule, il y avait 2 pneus qui avaient été dégonflés. Et du coup, c'était un moment de bonne humeur, je pense, partagé par tous les opposants.
Et les commissaires enquêteurs
Oh, et ils avaient le sourire, mais ça se voyait que c'était un sourire crispé. Hein. Et ce jour-là, ce qui était. En fait, c'est que. Il y a d'autres choses qui se passaient en parallèle aussi de ça. C'est qu'on avait eu vent qu'il y avait des sondages qui devaient se faire. Donc, pas des sondages géotechniques, mais juste des sondages de surface hein, pour étudier tout ce qui est rapport avec l'eau. En fait, maintenant, pour les projets comme ça, ils font des fois une étude de l'eau pour voir comment l'eau va s'écouler et pour voir l'impact du projet. Sur les zones humides et sur l'écoulement des eaux.
Ça, c'est l'Europe Écologie et les Verts qui ont demandé expressément cette commission, en fait.
Et du coup, ça fait un truc avec un matériel assez léger. C'est pas une grosse machine, c'est une tarière, c'est ça le mot ?
Une tarière.
Ouais, une tarière. Une tarière qui permet qui est juste à main, quoi, qui permet de prendre des échantillons sur 1 mètre de profondeur. Et du coup, bah, on s'était un peu dit qu'on essayait de surveiller la zone parce que, en fait, quand on a des informations de ce genre, et ben, c'est très difficile pour nous de pouvoir savoir où est-ce qu'ils vont arriver parce que la zone est très 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 grande. Et donc, c'est un peu du hasard qu'on puisse les trouver. Ou là, en l'occurrence, c'était aussi qu'on avait réussi à un peu s'organiser, ce qui n'est pas toujours facile pour nous, pour faire des rondes un petit peu, surveiller un peu toute la zone.
Il faut préciser que ces sondages, ils se faisaient comme les autres sondages qui ont déjà eu lieu et dont on a déjà parlé dans les autres émissions. C'est des sondages qui se font sur le barreau routier et du coup la future desserte de l'aéroport, qui est une 4 voies qui va passer en dessous de l'aéroport, au sud.
Et donc, du coup, le même jour que le jour de la première, que le premier jour de l'enquête publique, il y avait aussi des gens... Qui se baladaient un petit peu voir ce qui allait se passer et qui occupaient un terrain en particulier qui est une vieille friche qui avait été défrichée récemment. J'ai pas forcément raconté l'histoire dans l'ordre, mais il y avait une friche qui a été défrichée un peu avant et du coup il y avait cette pensée que peut-être ils allaient venir là pour faire ces sondages là. Et du coup, il y a des gens qui étaient montés dans des arbres et qui avaient fabriqué des tripodes. Donc les tripodes, c'est trois mâts qui sont liés entre eux au sommet, un peu sous la forme d'un tipi, ce qui permet à une personne de monter en haut et d'être hors d'atteinte des gendarmes et de bloquer des accès, en fait. Les voitures ne peuvent plus passer. Et donc... il y avait pendant le rassemblement de l'enquête publique des gens qui étaient sur ce terrain et quand les gendarmes sont arrivés accompagnés par des géomètres ils ont pu prévenir les gens qui étaient au rassemblement et ce qu'il y a c'est que c'est tombé au moment où les commissaires enquêteurs partaient dans leur dépanneuse et du coup bah, tout le monde a pu venir sur le terrain et c'était quelque chose d'assez nouveau parce que jusqu'à présent bah, les habitants de Notre-Dame-des-Landes on n'avait pas eu trop l'occasion de se rencontrer ou ils n'étaient pas forcément venus dans cette zone là parce que c'est un peu excentré par rapport au bourg, c'est pas là où ils habitent et du coup il y avait des gens des habitants du bourg des gens des associations, ça faisait une petite troupe et puis on est arrivé et le dispositif policier n'était pas encore énorme à ce moment-là. Et du coup, devant le nombre, les gendarmes ont préféré plier bagages et se sont retirés un peu à reculons, un peu pressés par des gens qui avançaient d'un mètre à chaque fois qu'ils reculaient d'un mètre. Et du coup, ils ont sauté dans les camions, ils sont partis. Et là, c'était aussi un moment vraiment sympa pour nous.
Caramba, encore raté.
Du coup, après, la suite de l'enquête, elle s'est déroulée avec énormément de gendarmes, genre 250 environ. Du coup, garde mobile avec des boucliers. Au début, ils étaient assez sur un truc de juste bloquer l'entrée de la cour de la mairie avec grille anti-émeute et camion pour ne pas qu'on puisse s'approcher du bungalow. Et par la suite, ils ont complètement bouclé le pâté de maison qui se trouve là avec genre l'école au milieu, enfermée au milieu de cordons de gendarmes, une interdiction à tout le monde de rentrer, une obligation aux parents de faire des délégations pour aller chercher les enfants. parce qu'ils ne veulent pas laisser rentrer tous les parents. Et du coup, ça fait un truc où, le bourg, là, il est vraiment occupé, occupé fortement par les militaires. Ce qui fait monter un climat de tension où régulièrement, il y a des petites bousculades entre les habitants et les flics. Et ça donne lieu assez régulièrement à des gazages au gaz au poivre, un peu à chaque rassemblement. Et du coup, dans les rassemblements suivants, il y a un peu aussi des dynamiques de faire des manifs dans le bourg, là, pour aussi dire aux gens qui seraient pas sortis de chez eux, bah, il se passe des choses, et puis on est là, et créer un peu de visibilité. Et du coup, ça fait une totale impossibilité de bloquer l'enquête, parce que les flics commencent à tourner super tôt le matin, ils bloquent complètement le territoire. Ils se font des relais avec les CRS pour pouvoir sortir l'enquête, quoi. Ça fait un truc de fou. Il y a 250 gendarmes, peut-être 80 personnes en face, et ils font, pour que les gendarmes sortent, ils mettent des cordons de CRS entre-temps, genre une centaine de CRS, peut-être plus, pour que la gendarmerie puisse se replier dans ses camions, cache l'enquête dans un camion hors vue des gens qui manifestent, pour ne pas qu'on sache quel camion. Puis partent en convoi qui se découpe en plusieurs convois pour ne pas qu'on sache non plus sur quelle route part l'enquête, en sachant qu'elle est dans des camions de gendarmerie et que c'est du coup complètement imbloquable et inattaquable au vu du nombre qui sont à l'intérieur. Ça fait des espèces de blagues là, de voir autant de flics dans un aussi petit village et pour aussi peu de personnes.
De la même manière, en fait. Enfin, les oppositions directes au forage deviennent complètement quasi infaisables du fait de la pression policière, quoi, du genre, ils ont fait une perquisition dans un lieu, on ne savait pas pourquoi, ça a duré 2 heures, ils ont confisqué une hache parce qu'ils estimaient que ça pouvait être une arme, alors que bon, voilà, c'est des habitants dans une forêt, donc du coup la hache est un peu l'outil de base quand l'hiver est là, mais enfin bon, voilà. C'est de genre là, quoi. Ils ont pris tous les documents, les cartes qu'ils ont photocopiées, enfin, etc. Mais c'était vraiment le gros coup de pression. On savait vraiment pas pourquoi. Et en fait, le lendemain, on s'est aperçu que, bah voilà, il y avait 3, 4, voire 5 camions de militaires qui étaient dans la zone avec l'hélicoptère. Et que du coup, c'était le coup de pression avant les travaux qui se passaient juste à côté, quoi. Et enfin voilà, autant il y a des fois on fait des repérages, on tombe dessus ou par le hasard ou des choses de ce genre-là, autant il y a des fois on sait qu'il y a des travaux parce que il y a l'hélicoptère au-dessus de chez nous, on se dit ah tiens, c'est en ce moment que ça se passe.
Il se passe quelque chose. Voilà,
quoi. Oui, il y a souvent les actions qu'on fait où on arrive à bloquer un petit peu, ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure l'avancée des travaux, on les fait qu'une seule fois parce que après il y a un dispositif. Policiers qui nous obligent à chaque fois à être de plus en plus créatifs
et qui demanderait des milliers de personnes en
fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez, moi je suis à chaque fois impressionné et puis bon c'est sans doute un détail mais le fait qu'ils soient habillés en treillis militaire plutôt qu'en bleu marine, moi ça me fait un truc aussi où ça m'impressionne, j'ai pas l'habitude de voir, ça fait vraiment occupation militaire, quoi.
Et puis à côté de ça, c'est vrai que bon, nous on se déplace pas mal à vélo, à pied, bon, il y a quelques personnes qui ont des voitures quand même, mais pour se déplacer de lieu en lieu ou autre. Et là, il faut dire que, enfin, il faut remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que là, toute la campagne, elle est complètement assiégée par les flics et qui font des contrôles non-stop, identité, qui parfois fouillent les sacs. Qui vont jusqu'à prendre des photos comme si on était dans un comico en garde à vue, enfin, c'est complètement délirant, quoi. Et ça, c'est vraiment une pression assez énorme. Il y a des personnes qui se sentent même vraiment surveillées au point d'avoir une filature. Enfin, c'est assez tendu quand même, quoi. C'est particulier, quoi, à vivre au quotidien. C'est pas super évident, quoi.
Et du coup, en se promenant un petit peu dans le but de trouver les personnes qui faisaient les forages là, par rapport à l'eau, eh ben, à un moment, on a eu la surprise de voir une débroussailleuse qui était occupée à défricher, je ne sais pas, c'était presque un demi-hectare de friche. Hein. Et du coup, ben, là, il y a des gens qui se sont rassemblés rapidement. qui ont réussi à aller jusqu'à la débroussailleuse malgré le fait qu'il y avait un peu des patrouilles de gendarmerie sur les routes, mais du coup des gens qui sont passés à travers bois. Sur place, il y avait seulement 2 agents de la sécurité. Donc ça va, ça faisait pas forcément très nombreux. Et du coup, ils se sont postés devant le tracteur pour l'arrêter. Et puis, ils ont...
C'est plus qu'une débroussailleuse, c'est un gyrobroyeur.
Oui, un gyrobroyeur. Oui, excusez-moi, oui, un gyrobroyeur. Et du coup, ils ont arrêté le tracteur et ils ont réussi à... je sais pas comment ça s'appelle, à débrancher là, des câbles pour...
Le câble de force.
Peut-être bien, oui. Pour immobiliser le tracteur, il y a même des gens qui ont mis un petit peu de terre dans le réservoir pour faire un petit additif. Et du coup, le gyrobrailleur, excusez-moi, a été immobilisé au moins pour une partie de l'après-midi. Et les gens ont pu repartir à travers bois. C'est vrai que là, les gens ils ont pensé que le gyrobrailleur restait bloqué un bon moment, mais le soir même, il n'était plus au même endroit. Et du coup, le lendemain, on était encore à se demander où est-ce qu'on pourrait, où est-ce qu'il allait arriver. Il y avait des gens qui avaient trouvé une carte aussi dans le tracteur ou posée à côté du tracteur, je ne sais plus. Une carte qui mettait en évidence 3 zones particulières, dont la zone qui était défrichée. Donc ça nous a laissé un peu une idée de où est-ce qu'il risquait d'aller les prochains endroits. Donc on a essayé, et c'est pareil en fait, c'est qu'on est plein de gens avec des moyens d'action un peu différents ou des habitudes de lutte un peu différentes. Et là, ça nous prend beaucoup de temps en fait de discuter, de réussir à se mettre d'accord. Donc là, on a eu une semaine assez chargée où presque tous les soirs, on se réunissait et on parlait jusqu'à 1h du matin pour faire des hypothèses de est-ce qu'on pense qu'ils vont plutôt aller à cet endroit-là ou est-ce qu'on pense qu'ils vont plutôt aller à cet endroit-là. Donc des fois, des discussions qui tournaient un peu en rond. Et du coup, tout le temps dans l'urgence, et la grosse critique qu'on peut se faire à nous-mêmes, c'est que pendant le temps qu'on était tout le temps dans l'urgence, on n'a pas du tout pris le temps de communiquer autour, de pouvoir prévenir les gens qui sont intéressés à cette lutte, mais qui habitent un peu plus loin, qui habitent pas sur la ZAD. Et du coup, à chaque fois, on se retrouvait en nombre assez restreint, plutôt une vingtaine ou une trentaine, à essayer de s'opposer... à la gyrobroyeuse ou à différents travaux, mais du coup les flics étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux. Et en particulier, il y a un jour où ils ont décidé de tous nous arrêter, ils nous ont amenés dans la gendarmerie qui est à 50 km de là pour faire un contrôle de 4 heures, et puis après ils nous ont laissés en pleine campagne sans vouloir nous ramener en voiture.
Pas sympa, hein.
Et du coup là on s'est dit que quand même on déconnait quoi, que on peut pas s'opposer à un aéroport international en étant 20 quoi, et que du coup qu'il fallait faire plus d'efforts peut-être pour communiquer avec les gens qui sont autour de nous.
Juste pour finir sur les actions vite fait, je pense que ce qui posait problème à ce moment là c'était en plein mois d'octobre. Et du coup, les gardes mobiles se retrouvent depuis quelques années à devoir gérer le centre-ville de Nantes. Et ce n'est plus un territoire police, c'est un territoire gendarmerie en cas de mouvement social. Et du coup, l'occupation militaire, elle était sur Nantes. Elle était déployée tous les jours sur le centre, ce qui fait qu'il n'y avait plus beaucoup de flics à envoyer sur la ZAD. Et par exemple, le jour où il y a eu les arrestations, là, les 20 arrestations... les gendarmes ils ont débarqué de Nantes en urgence, ils ont arrêté les gens, ils les ont emmenés au commissariat et les gendarmes sont directement repartis sur Nantes pour gérer le centre-ville pour cause de mouvement lycéen et mouvement social. Et du coup ils étaient déployés tous les jours au centre-ville de Nantes. Du coup ils avaient fait appel à des entreprises comme Securitas pour sécuriser la zone.
Et cette fois-ci on fait une pause musicale.
Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Wouhou.
plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant.
Ça n'a toujours rien à voir, les pauses musicales que nous faisons. On continue avec voilà, cette petite discussion autour de l'opposition au nouvel aéroport du côté de Nantes. On peut peut-être parler maintenant de cette pieuvre qu'est Vinci, qui donc en juillet a eu la chance d'avoir la concession de l'obtention du marché ITER. Alors ça, c'est pas du côté de Nantes, hein, mais quand même, c'est 220 000 mètres cubes d'excavation et 32 000 quasiment mètres cubes de béton pour la zone dans le coin. Et au mois de juillet, double touch pour Vinci. Ils ont aussi la concession de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Oui, voilà, du coup, c'était... La nouvelle tant attendue, du coup ça faisait plusieurs mois qu'il y avait plusieurs entreprises qui étaient en compétition, on ne savait pas laquelle serait choisie, puis en juillet dernier donc on apprend que c'est Vinci. Et c'est assez rigolo façon de parler, mais du coup pendant l'info tour en fait partout où on est passé, à chaque fois qu'on disait Vinci, les gens nous disaient « Ah nous aussi on connaît Vinci, c'est eux qui nous ont fait les 16 parkings souterrains ici ». C'est eux qui nous ont fait ça, c'est eux qui nous ont fait ça. Et c'est clair que c'est hyper, hyper impressionnant comment, notamment en France, mais aussi à l'étranger, la Vinci est présente. Il faut savoir du coup que c'est le plus gros leader de ce qu'ils appellent les constructions concessions, du coup, qui fonctionne sur un principe de faire toutes les études préalables, ensuite construire et ensuite concessionner. Du coup, par exemple, pour le cas de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la concession est de 55 ans. Ils ont déjà...
ils prennent même pas leur retraite à 60 ans.
Ah non. Et sachant qu'en plus, il y a quand même... en pratique, l'État aime bien rallonger les concessions régulièrement.
Il faut aussi dire qu'ils reprennent la piste actuelle de Nantes et la piste de Saint-Nazaire en concession aussi. Ils reprennent la concession du coup des trois aéroports qu'il y aura sur la zone.
Ouais, du coup là ils auront toute cette zone-là là, qui leur appartient, et en plus de celle-là ils ont quand même les aéroports de Grenoble, de Chambéry, de Clermont-Ferrand, de Quimper. Ils sont en partenariat très fort avec ceux de Rennes et de Dinard, et ils ont des vues sur des aéroports, les aéroports du sud. Du coup Vinci, c'est assez impressionnant là comment ils sont sur tous les stades de construction, ils sont impliqués vraiment partout. Ils ont 300 carrières de granulats en France, ils ont toutes les usines de Lyon qui vont avec. Ils ont en réserve là, ils ont quand même 30 ans de production. C'est-à-dire s'ils continuent à construire à la vitesse qu'ils vont, ils ont déjà 30 ans d'assurés juste en matière première. C'est aussi eux qui font du coup la ligne grande vitesse qui doit relier Tours à Bordeaux là. C'est une ligne qui représente 300 km de long, 40 viaducs et 390 ponts. Donc juste ça. Ils font aussi tout ce qui est transport d'électricité, que ce soit du transport mais pas que, aussi de la distribution et de la transformation. Ils sont pas mal aussi sur des télécommunications inter-entreprises. Que ce soit de la voix, de l'audio, de l'image, ça dépend. Ils font beaucoup de maintenance dans les usines. Du coup, dans plein d'usines, on les retrouve sur différents endroits, que ce soit pour de l'isolation, pour de la protection incendie, pour même de la plomberie, pour énormément de choses. Ils font des écoquartiers aussi. Du coup, dans pas mal de villes, on les retrouve à faire du 30-40 hectares d'éco-quartier d'un coup. Ils font de la supervision de transport urbain, du coup, c'est eux qui développent tout ce qui est transport urbain. Ils font également du gros œuvre, du coup, ça va être. Là, ils viennent de signer un contrat pour le pont le plus long du monde, 40 km de long, dans le Qatar. Ils font des pipelines, ils font du coup, là, ils ont ITER également.
Pour 36 millions d'euros.
Voilà.
Hors taxe. Parce que c'est toujours bien de parler hors taxe.
Et du coup, et après, une fois qu'ils ont construit tout ça, ils font tout ce qui est concession par-dessus. Quoi.
Ils ont 50% des autoroutes françaises.
Oui, voilà. Et ils sont, ils ont 1400 et quelques filiales. Du coup, pas forcément, on s'aperçoit que c'est Vinci quand on croise une entreprise. Mmh. Il faut regarder d'un peu plus près. Beaucoup sont visibles où il y a marqué Vinci dessus, mais beaucoup aussi ne sont pas visibles. Et ils sont vraiment implantés partout, quoi. Ils sont dans plus d'une centaine de pays.
Par exemple, pour ITER, c'est pas Vinci en tant que tel, c'est GTM Sud, qui est une filiale de Vinci. Mais ce qui vu qu'ils sont présents partout, ça multiplie les cibles si on veut faire chier cette pieuvre.
Tout à fait.
Vu le nombre de tentacules qu'il y a.
Oui, moi je voulais faire un peu de pub là, pour les différentes publications. Z, je crois, on vous en a déjà parlé. Il y a la revue itinérante Z qui a fait un numéro en grande partie sur cette lutte contre l'aéroport et sur les écoquartiers dans la ville de Nantes et tout l'aménagement urbain qui va avec. Hein. Mais autrement, là, sur la ZAD,
Z qui se trouve soit, faut écrire à la parole errante à Montreuil, soit contacter le site zit.fr, soit dans des bonnes librairies.
Voilà. Autrement, nous, on a aussi écrit un journal qui s'appelle Lese Béton, Lese, L-E-S-E, Béton, et qui doit être consultable sur Internet, notamment sur le site Indymedia Nantes. C'est www.nantes.indymedia.org.
I-N-D-Y.
I-N-D-Y. Oui, c'est ça. Et, et du coup, là, si vous vous dépêchez, ça doit être encore dans les articles récents sur la colonne de droite. Et si vous tardez un petit peu, il faut sélectionner la rubrique Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et là, vous trouverez plusieurs articles qui parlent de cette lutte contre l'aéroport.
Et ce journal, il est à vocation régulière, Lese Béton ?
Oui, il est à vocation régulière, mais je pense qu'on n'arrivera pas à tenir un rythme mensuel, ce sera peut-être une fois tous les deux mois. Autrement, si vous voulez nous contacter, on a une adresse mail qui est zad@riseup.net.
Aussi à rajouter, on va bientôt avoir un site internet. Alors ça met un petit peu de temps à se mettre en place et je pense qu'il y aura le contact qui sera mis, le lien qui sera mis directement sur le site d'Indymedia Nantes. Et aussi à préciser, si des gens veulent passer sur la ZAD, qu'il y a une maison qui est prévue pour l'accueil des gens de passage. Du coup, une maison avec une cuisine, des sleeping, une zone de gratuité et autres petites choses. Avec juste à côté une cabane qui a été construite qui s'appelle la cabane de la résistance dans laquelle il y a la plupart de nos informations, un infokiosque et aussi une zone de réunion. Et pour finir, il y a une maison qui a été ouverte pour accueillir des groupes qui voudraient se réunir autour de leur lutte, que ce soit pour boucler un journal, discuter entre eux ou je ne sais quoi. Et ça a été ouvert dans l'idée de se dire que c'était bien de rencontrer aussi d'autres gens qui luttent et de pouvoir échanger sur nos différentes luttes et nos différentes pratiques. Et donc pour ça, je pense que le plus simple, c'est d'écrire, si ça intéresse des gens, à zad@riseup.net.
Et de préciser gîte dans l'objet.
Oui, parce qu'en fait, vous faites dans l'écotourisme.
Tout à fait, c'est ça.
Et du coup, la maison là, qui peut accueillir... des personnes plus individus que groupes. Ça s'appelle les planchettes, en fait. Il y a un autre lieu dit qui est assez proche, qui s'appelle Bel Air, qui peut également accueillir des gens. Et du coup, ça, c'est plutôt sur la D281. Ça se situe entre Fête Bretagne et la Paclay, en fait. Voilà, c'est pour situer les gens qui n'ont pas Internet.
Oui, et que si vous avez du mal avec tous ces contacts, vous pouvez toujours me contacter à la radio. Ben, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire ou on boucle là.
Bon, ben, merci Zinzine pour ce petit temps d'antenne.
Ouais, c'est clair.
Ben, en tous les cas, merci à Antoine, Louz, Sri et Alain d'être montés par ce temps enneigé en haut de la colline.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Zinzine vous a présenté Notre-Dame-des-Glandes, la lutte contre l'aéroport de Nantes, acte 3.
Et service terminé en direction de Pont de l'Homme.